Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de voir du monde dans cet amphi, même si ce n'est pas encore l'amphi plein parce qu'on n'a pas le droit. Mais ça va venir. On espère peut-être en janvier arriver à accueillir autant de monde qu'avant. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont sur YouTube, mais ça fait plaisir de, voilà, de vous revoir. La dernière fois où j'ai animé, je ne sais pas comment dire, une conférence grand public, c'était au mois de juin. Et il n'y avait personne, à part 2-3 membres de l'IAP, on n'avait pas du tout le droit d'ouvrir au public, donc c'est une bonne nouvelle, les choses s'améliorent. Alors, avant de vous présenter notre orateur de ce soir, je voudrais juste vous dire que la prochaine conférence, celle du mois de décembre, sera donnée par Thierry Fouché, qui est à l'Observatoire de Paris, au Lésia, à Meudon. Et ça, c'est un sujet différent. Ce sera l'exploration du cratère G0 par la sonde par le rover Perseverance, donc sur de la mission Mars 2020. Et donc on va apprendre des tas de choses sur Mars qui viennent d'être découvertes par les observations avec ce rover. Et donc, nous allons aujourd'hui accueillir Gwenaël Boué, que je remercie d'être venu, d'autant plus qu'il n'a pas beaucoup de voix, mais il paraît que la semaine dernière, il n'en avait pas du tout, donc on a quand même de la chance qu'il soit là. Alors, Gwenaël a fait sa thèse avec Jacques Lascar sur le basculement d'Uranus, c'est-à-dire comment est-ce que Uranus s'est trouvé. Vous savez peut-être que l'axe de rotation d'Uranus est quasiment dans le plan de l'écliptique, alors que les autres planètes sont quand même orienté avec un axe de rotation plus ou moins perpendiculaire à l'axe de l'écliptique, au plan de l'écliptique. Donc Uranus, c'était un petit peu bizarre. Il a réussi à expliquer pourquoi Uranus avait basculé. Et puis ensuite, il est parti 2 ans en post-doc au Portugal et il a changé de sujet puisqu'il s'est mis à travailler sur les exoplanètes. Et puis ensuite, il a passé 1 an et demi à Chicago. Et il a eu un poste de maître de conférence, donc d'enseignant-chercheur, d'abord à l'UPMC, Université Pierre et Marie Curie, et ensuite, et c'est en fait la même université, mais qui s'appelle maintenant Sorbonne Université. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de Saturne et de l'origine de son inclinaison. Merci Gwenaël.
Merci Florence. Donc j'enlève mon masque, hein, c'est ça? Ok. Donc, ce soir, je vais vous parler de l'origine de l'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne. Alors, donc comme c'est une histoire d'axe de rotation, je vais d'abord commencer par parler de rotation de planète avant de parler des inclinaisons des axes de rotation. Alors, les rotations de planète, ça a l'air d'être quelque chose de simple comme ça, mais comment est-ce qu'on mesure les rotations des planètes? Pour, si on regarde les planètes à l'œil nu, sur cette image, vous devez à peine apercevoir les planètes sur cette image où on a, donc c'était une date un peu particulière où toutes les planètes visibles à l'œil nu étaient disponibles dans le ciel au même moment. Vous avez Mercure, Vénus, Saturne, Mars, Jupiter et même la Lune. Cette image, mais donc quand on regarde une planète à l'œil nu, ce qu'on voit, c'est juste un point. Et donc avec un point, on n'arrive pas à mesurer la vitesse de rotation. Donc pour mesurer la vitesse de rotation, il a fallu attendre qu'une personne commence à pointer une lunette ou un télescope vers le ciel. Alors le premier à avoir pointé une lunette vers le ciel, c'est Galilée, en 1609. Mais la lunette de Galilée était trop petite, elle n'avait pas la résolution et l'amplification suffisante pour mesurer des détails sur les planètes, pour pouvoir en mesurer la vitesse de rotation. Alors, il faut attendre 60 ans, dans les années 1660, Jean-Dominique Cassini, en utilisant des grandes lunettes d'une dizaine de mètres, comme on voit sur la terrasse de l'observatoire qui est représenté dans cette peinture, a pu observer des détails à la surface des planètes et donc a pu commencer à mesurer des rotations. Alors, qu'est-ce qu'il a mesuré comme rotation? Il a d'abord commencé par Jupiter. Sur Jupiter, il y a une grosse tache rouge qui est ici sur le côté dans cette image. Et donc, en suivant la tache rouge, il a pu mesurer la période de rotation de Jupiter, 9h56, en 1665. Ensuite, en utilisant la même technique, il a pu regarder Mars et voir des motifs qui se déplaçaient et en déduire une rotation de 24h40. Ensuite, il s'est attaqué à Vénus. Pour Vénus, c'était un peu plus compliqué parce que Vénus, donc déjà on voit, depuis la Terre, on le voit avec une phase. On ne voit pas tout le disque de Vénus, parce que Vénus est une planète interne à l'orbite de la Terre, donc elle est toujours plus proche, elle est toujours un peu proche du Soleil, et ce qui fait qu'on ne voit qu'une partie éclairée de Vénus, mais on ne voit pas le disque complet, comme on peut le voir pour les planètes externes. Lorsque la Terre se place entre le Soleil et la planète, on arrive à voir toute la planète en entier. Mais pour Vénus, ce n'est jamais le cas. On a le Soleil, Vénus et la Terre, donc on voit toujours une phase. Autre difficulté, c'est qu'on ne peut pas observer Vénus toute la nuit. Toujours pour le même principe, Vénus est toujours assez proche du Soleil, donc on verra quand le Soleil se couche Vénus en début de soirée, et quand le Soleil se lève, donc avant que le Soleil se lève, on pourra voir un peu Vénus, et après il fera jour, on ne verra plus Vénus. Donc Vénus, on ne peut pas l'observer pendant toute la durée de la nuit. Donc on le voit un petit peu le matin ou un petit peu le soir à intervalles de 24 heures, donc une observation un peu stroboscopique. Donc quand on observe un motif sur la surface de la Lune, le lendemain on revoit un motif, il faut savoir est-ce que c'est le même motif qu'on observe, combien de tours Vénus a fait sur elle-même entre les deux moments où on observe le motif. Donc c'est plus compliqué à mesurer. Et donc Jean-Dominique Cassini en 67, lorsqu'il a fait cette étude-là. Donc, il était assez prudent, il a dit, donc, j'observe une période, si je la ramène, si j'enlève l'effet stroboscopique, ça va tourner peut-être un peu moins de un jour, un peu moins de 24 heures. Alors, bon, c'est intéressant de regarder un peu plus en détail l'évolution de ce qu'on a compris sur la rotation de Vénus. Bon, ça, je vais suivre en fait un peu... une conférence de Jacques Lascar au Collège de France en 2014 où il explique très bien cette histoire sur l'évolution de comment est-ce qu'on a appris comment tournait la rotation de Vénus. Donc je vous ai dit, Jean-Dominique Cassini dit un peu moins de 24 heures, un peu moins d'un jour. 50 ans plus tard, Francesco Bianchini fait des observations et lui trouve 24 jours et 8 heures. Donc on voit que ce n'est pas la même chose, mais donc il y a cet effet stroboscopique, donc ce n'est pas très évident à savoir qui a raison ou pas. Alors, en 1740, Jacques Cassini, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des fils de Jean-Dominique Cassini, donc il a repris les observations de Bianchini et de son père, et il a vu que en fait, les observations pouvaient être compatibles avec un peu moins de un jour, 23 heures, 20 minutes. Et à partir de là, il va y avoir plusieurs observateurs qui vont essayer de raffiner ce 23h20. Donc Schröter dit 23h20 et 19 secondes. Donc, vous voyez la précision qui augmente. Et avec Francesco De Vico, ça augmente encore jusqu'au 10 millièmes de seconde. Donc là, on a une précision super sur la rotation de Vénus. Jusqu'à ce que Giovanni Schiaparelli disent « Non, 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 pas du tout, c'est pas 23 heures, c'est 224,7 jours. » Donc c'est assez osé quand même. Tout le monde cherchait 23 heures. En plus, 23 heures, un peu moins de 24 heures, c'est pas mal, parce que pour Vénus, qui est un peu plus près du Soleil, 23h20, pour la Terre, presque 24 heures, pour Mars, 24h40, il y a une belle progression, ça paraît logique. Schiaparelli dit « Non, 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 pas du tout, 224,7 jours. » Alors comment est-ce qu'il a trouvé cette valeur-là? Alors en fait, il n'a pas regardé le ciel pour ça. Il a fait des calculs. Alors pour comprendre, il faut qu'on resitue Giovanni Schiaparelli. En 89, donc c'est quand même pas mal de temps après Cassini, il a essayé de cartographier Mercure. Donc en effet, il a des instruments maintenant un peu plus sophistiqués et il arrive à mieux voir Mercure. Alors Mercure, c'est encore plus compliqué que Vénus parce que Mercure est vraiment très proche du Soleil. Donc on le verra vraiment quand très fin de nuit ou tout début de nuit. Et donc, ce qu'il mesure, donc il arrive à voir un relief. Bon, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure, donc on arrive à voir des motifs. Et donc, ces observations lui donnent une rotation lente. Donc, il observe une rotation lente quasi synchrone. Alors, synchrone, ça veut dire quoi? C'est un peu comme la Lune, c'est-à-dire présenter toujours la même face. Donc là, vous avez le Soleil, et Mercure tourne à la même vitesse sur elle-même et autour du Soleil. Donc, il voit une rotation quasi synchrone. Mais ce qu'il y a, c'est que Schiaparelli avait connaissance des travaux de George Darwin, donc un des fils du naturaliste Charles Darwin, qui a étudié des effets de marée. Donc les effets de marée, vous connaissez bien. Donc la Lune va déformer les océans et ça fait 2 marées chez nous par jour. Mais la Lune ne fait pas que déformer les océans, elle déforme aussi la croûte terrestre, la partie solide de la Terre. On appelle ça des marées solides et des marées océaniques. Donc si la Lune arrive à déformer la Terre, vous comprendrez bien que la Terre aussi arrive à déformer la Lune. Et c'est les déformations que la Terre a engendrées sur la Lune, à un moment où elle avait une vitesse importante, ça a déformé la Lune périodiquement, et en déformant la Lune, ça fait de la friction, de la dissipation, et donc ça a ralenti la rotation de la Lune, et ça l'a mis en rotation synchrone. Alors, donc, Schiaparelli avait connaissance de ces travaux de George Darwin, et il refait les calculs, donc cette fois-ci il remplace la Terre par le Soleil, la Lune par Mercure, et il observe que le temps caractéristique de synchronisation de Mercure est très petit devant l'âge du système solaire, donc malgré que les observations disent quasi synchrone, il va dire que la rotation est synchrone, d'après la théorie de George Darwin des marées. Et du coup ça c'était en 1889, donc l'année suivante, lorsqu'il étudie Vénus, il reprend ses calculs, il l'applique à Vénus. Le temps caractéristique de synchronisation de Vénus est plus court que l'âge du système solaire, donc Vénus est en rotation synchrone, d'où les 224,7 jours. Alors, comme on était sur Mercure, là, je vais juste terminer sur Mercure. Dans les années 60, les radars ont été développés. On a pu envoyer un signal radar et recevoir l'écho réfléchi sur Mercure, et à partir de l'effet Doppler dû à la rotation de Mercure, mesurer la vitesse de rotation de Mercure et voir qu'en fait elle n'est pas en rotation synchrone, elle est en résonance 3-2. Ça veut dire que Mercure fait 3 tours sur elle-même pendant qu'elle fait 2 tours autour du Soleil. Alors, comment ça se fait que les calculs prédisaient rotation synchrone et c'est une rotation en résonance? Ce qui manquait comme ingrédient à Schiaparelli, c'est que Mercure est anormalement ellipsoïdale. Donc elle n'est pas à symétrie axiale, elle a l'équateur qui n'est pas très régulier, donc il y a un bourrelet. Et du fait de ce bourrelet rigide, là, quand la rotation de Mercure décroît, au bout d'un moment, elle peut être capturée dans cette résonance 3-2. Donc Schiaparelli avait supposé que Mercure était plus sphérique, et du coup, il avait trouvé une rotation synchrone alors que c'est une rotation 3-2. Mais en tout cas, l'ingrédient clé, c'est quand même qu'il y avait de la marée, et la marée joue un rôle important dans la rotation de Mercure. Alors, pour Vénus, donc qu'est-ce que c'est 224,7 jours? Donc, il faut attendre aussi les données radar. Les données radar vont pouvoir faire écho sur la partie solide de Vénus, et donc traverser l'épaisse atmosphère. Et ce qu'ont observé Goldstein et Carpenter dans les années 60, c'est que la rotation de Vénus n'est pas synchrone, en fait elle est même rétrograde. Vénus tourne dans l'autre sens à la vitesse de 240, à une période de 243 jours. Alors, donc encore une fois, les marées étaient très importantes, mais ce qu'il y a, c'est que sur Vénus, il y a une atmosphère qui est tellement épaisse qu'il y a aussi une marée atmosphérique. Donc sur Terre, il y a la marée solide océanique, et sur Vénus, c'est solide et atmosphérique. Et il s'avère que les marées atmosphériques ont un effet opposé aux marées solides. Et donc, si les marées solides veulent mettre Vénus dans un état de rotation synchrone, l'atmosphère va l'empêcher d'être en rotation synchrone et va créer cet équilibre dans cette vitesse rétrograde de 243 jours. Donc, ce qu'on voit, c'est que rien que mesurer une période de rotation, finalement, ce n'est pas si simple. On voit que les observateurs, quand ils observent quelque chose, ils ont quand même une idée derrière la tête, ils ont une idée préconçue de ce qu'ils veulent chercher, ils savent à peu près vers quoi ils veulent aller, Et parfois, il le trouve, ce qu'il cherche. Hein. Et malgré les observations, en fait, qui, malgré le fait que la rotation n'était pas de 23, jours, 23 heures, ils ont quand même trouvé 23 heures. D'un autre côté, Schiaparelli, qui a eu une approche plus théorique, a bien identifié qu'il y avait un effet qui était important à prendre en compte, l'effet de marée. Donc c'est à partir de là où il dit, bon, il y a un effet de marée. Bon, peut-être que donner la, bon, la valeur qu'il a trouvée était fausse, certes, mais ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait un effet qui était très important, et les observateurs, après, peuvent re-regarder les observations avec cette connaissance-là, qu'il y a les effets de marée qui sont très importants et que la rotation n'est peut-être pas de 23 heures. Tout ça pour dire que théorie et observation, ça marche quand même ensemble. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, sinon on risque de faire des erreurs. Voilà. Donc, ce qu'on a vu pour Vénus, donc en fait, les motifs qui étaient à la surface de Vénus, on n'arrivait pas à voir la surface de Vénus elle-même, c'était des motifs sur l'atmosphère. Donc, ce qu'on mesurait, c'était éventuellement des vents, peut-être, ou des choses comme ça. Mais du coup, on peut se poser la question, mais oui, mais Jupiter, alors? C'est quoi la rotation de Jupiter? Parce qu'au final, qu'a mesuré Jean-Dominique Cassini? Il a mesuré la vitesse de la tache rouge. Mais est-ce que c'est la vitesse de rotation de la planète? Alors déjà, Cassini, en 1790, il avait déjà remarqué que les bandes de Jupiter tournaient à des vitesses différentes. Bon, déjà, ça pose la question, mais alors c'est quoi la vitesse de rotation si toutes les bandes tournent à des vitesses différentes? Alors si on regarde les définitions de l'UAI, l'Union Astronomique Internationale, en 2018, propose même trois définitions. Donc vous allez avoir la vitesse moyenne de l'atmosphère, puisque c'est ce qu'on voit, c'est l'atmosphère, donc l'atmosphère au niveau de l'équateur, et on voit que l'atmosphère au niveau de l'équateur tourne en 9h50, donc un peu plus rapide que la tache rouge. Il y a une deuxième définition, ça va être, donc elle est un peu plus compliquée dans les définitions de l'UAI, donc je voulais simplifier un petit peu aussi, donc ça va être la vitesse de l'atmosphère un peu au-dessus de l'équateur et un peu en dessous. Et là, on retombe sur la vitesse, sur la période qu'avait mesurée Jean-Dominique Cassini. D'ailleurs, on voit qu'il avait fait un résultat qui était très bon déjà en 1765. Mais donc, tout ça, c'est la vitesse de rotation de l'atmosphère. Mais comment ça tourne à l'intérieur? Est-ce qu'on fait la même erreur qu'avec Vénus? Est-ce qu'on peut savoir à quelle vitesse tourne l'intérieur de Jupiter? Alors oui, parce que Jupiter a un très fort champ magnétique. Ça vous le savez peut-être, donc il y a très fort champ magnétique et l'axe du champ magnétique n'est pas aligné avec l'axe de rotation. Ça veut dire que le champ magnétique tourne. Donc si on mesure le champ magnétique, on doit pouvoir mesurer cette vitesse de rotation. Alors après, pour mesurer le champ magnétique, il faut passer à côté de Jupiter. De la Terre, on ne va pas réussir à mesurer ce mouvement. Mais heureusement, on a envoyé des sondes, Voyager, etc. Donc on a pu mesurer la rotation du champ magnétique et voir que, bon, finalement, c'est compatible avec la vitesse de la tache rouge. Donc tout va bien pour la rotation de Jupiter. OK. Et alors pour Saturne? Pour Saturne, bon bah, il n'y a pas de tâche caractéristique, donc on va juste regarder la vitesse de rotation du champ magnétique et trouver une vitesse, une période de 10h39. Alors il faut savoir que pour Saturne, on a des anneaux. Et en regardant les anneaux, une équipe a réussi à trouver la vitesse de rotation de Saturne. Alors comment ça marche? Donc dans la Terre, vous savez qu'il y a des mouvements de convection à l'intérieur de la Terre, tout ça, ça bouge. Pour Saturne, c'est la même chose. En plus, c'est une planète gazeuse, donc vous pouvez imaginer qu'il y a des vents et des courants, etc. Mais les vents et les courants, toutes ces ondes-là, se propagent dans un référentiel tournant qui tourne très vite. 10h39, pour une planète aussi grosse que Saturne, ça tourne quand même très vite. Et du coup, les ondes interagissent avec cette rotation, et donc il n'y a que quelques fréquences d'ondes qui peuvent exister dans une planète qui tourne avec une vitesse donnée. Et ces oscillations de Saturne, qu'est-ce que ça va faire? Ça va interagir avec les anneaux, ça va déstabiliser un peu les anneaux, donc il y aura une petite structure dans les anneaux qu'on ne peut pas voir à cette échelle-là. Et en regardant la petite structure dans les anneaux, on remonte à la fréquence propre des ondes à l'intérieur de Saturne, et connaissant la fréquence propre des ondes dans Saturne, on en déduit la vitesse de rotation de Saturne. Donc tout ça, ça paraît un peu compliqué, très indirect, mais bon, c'est très bien compris comme physique. Et on tombe sur 10h33. Donc on voit quand même qu'il y a un écart de 6 minutes qui, à ma connaissance, n'est pas encore expliqué. Mais bon, voilà. Donc on a cette rotation de Saturne. Donc, je vais m'arrêter là pour les rotations, parce que donc là, le sujet quand même de ce soir, c'est l'inclinaison de Saturne. Donc on va passer maintenant aux obliquités. Donc les obliquités, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation. Alors, déjà, juste une question. Est-ce qu'on peut connaître l'orientation de l'axe de rotation d'une planète sans connaître sa période de rotation? Est-ce que les deux sont liés? Est-ce que... Parce que du coup, quand on voit la période de rotation, donc on voit un mouvement, donc la période du mouvement, c'est la période de rotation, et la direction du mouvement, ça nous donne l'axe. Mais est-ce que sans connaître la période de rotation, on peut connaître l'axe de rotation? Vous allez voir, si je vous montre une image, vous savez exactement comment placer l'axe de rotation, hein, perpendiculaire aux anneaux. Donc en fait, mesurer l'axe de rotation, finalement, c'est beaucoup plus simple, en tout cas pour les planètes géantes. Il suffit de prendre la perpendiculaire aux anneaux. Même Herschel, qui a découvert Uranus, donc il n'avait pas la précision pour voir la surface d'Uranus. En plus, Uranus, c'est aussi une planète avec beaucoup d'atmosphère, une planète de glace avec beaucoup d'atmosphère, donc on ne voit pas la rotation d'Uranus. Mais qu'a vu Herschel? Herschel a découvert des satellites aussi autour d'Uranus. Ce qu'il a trouvé, c'est que les satellites, ils étaient en orbite perpendiculaire à l'écliptique. Donc du coup, déjà, lui aussi, même sans voir des motifs sur Uranus, pouvait déduire que Uranus était incliné de 90 degrés environ. Alors si on regarde les obliquités des planètes dans le système solaire, on a ça. Donc Mercure quasiment vertical. Ça, c'est aussi les effets de marée qui redressent les planètes. Donc Mercure très proche de l'étoile, du Soleil. Son axe de rotation était redressé, obliquité nulle. Vénus, quasiment nulle, sauf que c'est rétrograde, donc ça tourne dans l'autre sens. Ou alors c'est, l'axe est à l'endroit, mais c'est rétrograde, ou c'est prograde à l'envers, comme ça. Pour la Terre, 24 degrés, 26 minutes, donc ça, c'est ce qui est responsable des saisons, on connaît bien. Pour Mars, 25 degrés, finalement, c'est très proche de la Terre, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est une pure coïncidence, parce qu'en fait, l'axe de rotation de Mars est un mouvement complètement chaotique, qui peut osciller entre 0 et 60 degrés, et aujourd'hui, c'est 25 degrés, quasiment comme la Terre. Donc c'est juste une coïncidence, mais voilà, donc on a 25 degrés. Pour Jupiter, on a 3 degrés, donc quasiment vertical. Et on pense que c'est dû à la formation des grosses planètes gazeuses, donc c'est cohérent. Saturne, 26,7 degrés, donc ça devrait être... On s'attend à ce que ce soit comme Jupiter, quasiment 0 degré, mais c'est 26 degrés. Vous allez me dire, oui, mais ça ressemble à la Terre, à Mars, pourquoi c'est si bizarre, même à Neptune, la dernière planète, 28 degrés. Mais on va voir qu'il y a d'autres arguments qui permettent de dire que non, quand même, Saturne, 26 degrés, c'est pas un hasard. Et enfin, il y a Uranus, 98 degrés. Donc, comme l'a rappelé Florence, donc j'ai travaillé sur l'origine de l'inclinaison d'Uranus. Donc, il y a plusieurs scénarios qui existent, hein. Donc, Uranus et Neptune sont des grosses planètes, des planètes géantes, mais qui contiennent beaucoup de glace comparé à Jupiter et Saturne. Et donc, toute cette partie de glace, c'est quand même accrété avec plein de collisions assez violentes et donc qui ont pu basculer l'axe de rotation. Dans ma thèse, j'ai essayé de voir si Saturne n'avait pas pu rentrer en résonance et basculer sans collision. Mais on va revoir ça un petit peu sur Saturne tout à l'heure, donc du coup, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur Uranus. Donc voilà pour les obliquités des planètes. Alors, donc oui, je vous ai dit, pour Jupiter, ça c'est la faible obliquité, donc le fait que l'axe soit quasiment vertical, on pense que c'est dû à la formation des planètes géantes de glace, de gaz. Donc les planètes se forment dans un disque protoplanétaire. Donc vous avez au début dans la galaxie un gros nuage qui va s'effondrer. Mais ce nuage, il a toujours un petit peu de rotation au début. Et après, comme la patineuse qui resserre les bras, le nuage va tourner de plus en plus vite au fur et à mesure qu'il se contracte. Et donc ça va créer un disque naturellement, un disque de gaz et de poussière. Et dans ce disque de gaz et de poussière, vous allez avoir les planètes qui se forment. Donc là, on voit sur cette simulation des petits agrégats qui sont des petites protoplanètes en formation. Et quand on regarde les différents zooms, on voit que le gaz qui arrive sur ces planètes en formation suit un courant qui est bien régulier. Vous voyez, donc il y a ce mouvement de gaz bien régulier qui est dans le plan du disque protoplanétaire. Et donc ce gaz donne un mouvement de rotation qui a bien un axe perpendiculaire au plan de la figure. Là. Donc en fait, pour une planète qui a un petit peu de roche et beaucoup de gaz, on s'attend à ce que même si le cœur, le noyau, a une rotation quelconque, tout le gaz qui arrive avec ce même mouvement de rotation va dominer et va faire en sorte que la planète, à la fin, a un mouvement de rotation quasiment vertical. Donc c'est ce qui explique les 3 degrés pour Jupiter, et on s'attendrait à avoir à peu près la même chose pour Saturne. Or, pour Saturne, c'est 26,7 degrés. Alors, donc maintenant, pour essayer de comprendre un peu d'où peuvent venir ces 26,7 degrés, on va s'intéresser au mouvement de l'axe de rotation des planètes. Donc, si on regarde pour la Terre, donc vous avez sur votre gauche un schéma de la Terre avec les flèches sur l'équateur qui donnent la rotation de la Terre sur elle-même et la flèche au-dessus qui dit comment l'axe de rotation, ce mouvement de précession qu'on appelle un mouvement de précession, donc l'axe de rotation de la Terre n'est pas fixe dans l'espace, il tourne. Donc si on se met sur Terre et on regarde le ciel, donc on verra donc ces étoiles. Donc l'axe de rotation de la Terre, aujourd'hui, il est quasiment sur l'étoile polaire. Vous savez, l'étoile polaire, ça indique le nord, hein, c'est la direction de l'axe de rotation de la Terre. Et je vous ai dessiné aussi en rouge un système de coordonnées qui correspond en fait à l'axe, le pôle de l'orbite de la Terre, donc le pôle de l'écliptique. Et il s'avère que le mouvement de précession de l'axe de rotation de la Terre, c'est en fait un tour autour du pôle de l'écliptique, comme ceci. Donc aujourd'hui, dans les années 2020, donc on est quasiment sur l'étoile polaire. Mais si on remonte dans le temps, donc on voit qu'à des moments, il n'y avait pas d'étoiles, et dans le futur, il n'y aura pas d'étoiles. Donc il faut faire attention aussi que les étoiles ont des mouvements propres. Donc là, je fixe les étoiles. Quand on fait évoluer le temps, les étoiles elles bougent aussi. Hein. Les constellations se déforment avec le temps. Mais tout ça pour dire que l'axe de rotation de la Terre a un mouvement de précession. Si on attendait suffisamment longtemps, donc de l'ordre de 26 000 ans, on verrait l'axe de rotation de la Terre tourner dans le ciel. Alors pour Saturne, c'est quoi le mouvement de l'axe de rotation de Saturne? Ben, ça va être la même chose. Alors le centre de précession pour Saturne, ça ne va pas être l'écliptique, parce que l'écliptique, c'est vraiment lié à l'orbite de la Terre. Pour Saturne, ça va être un plan invariant dans le système solaire, bon, donc centre de rotation. Et donc, ça va tourner autour de ce centre. OK. En combien de temps? Alors là, le problème, c'est que les observations n'ont pas de valeur bien précise de la vitesse de précession de Saturne. Mais ce qu'il y a, c'est que la vitesse de précession, c'est quelque chose qui est bien connu. Même Newton savait pourquoi la Terre précessait. D'ailleurs, à l'époque de Newton, il y avait cette controverse. Est-ce que la Terre est aplatie au pôle ou allongée comme un ballon de rugby? Donc les Anglais disaient aplatie au pôle, les Français allongés comme un ballon de rugby. Et Newton disait, ben non, mais si c'est allongé comme un ballon de rugby, ça devrait précesser dans l'autre sens. Le fait que ça précesse dans le sens qu'on observe, c'est qu'il y a plus de masse à l'équateur, donc ça va être plus aplati. Donc en fait, dès Newton, on savait calculer le mouvement de précession, et donc on sait maintenant très bien le faire. Donc on peut calculer la vitesse de précession de l'axe de rotation de Saturne, et on trouve entre 1,6 et 1,9 millions d'années. Donc c'est beaucoup, c'est plus que les 26 000 ans de la Terre. Alors, entre 1,6 et 1,9 millions d'années, bon, ça vous dit peut-être, voilà, c'est la valeur. Mais il s'avère que, pour ceux qui connaissent la dynamique du système solaire, ça correspond, ça encadre très bien la vitesse de précession de l'orbite de Neptune. Alors, les orbites précessent aussi, parce que toutes les orbites ne sont pas exactement dans le même plan. Les orbites sont un petit peu inclinées. Et du fait de l'inclinaison, les orbites ont un petit mouvement comme ça d'oscillation. Ce petit mouvement d'oscillation, c'est aussi un mouvement de précession. Et Neptune précesse en 1,87 millions d'années. Ça, par contre, la mesure de précession de l'orbite de Neptune, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est bien connu observationnellement et aussi théoriquement. Alors, donc, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que le fait que ces deux valeurs de précession qui sont à peu près égales, c'est une coïncidence ou est-ce que c'est dû à un mécanisme d'évolution, de formation dans le système solaire? Alors déjà, on peut aussi se demander, mais où est le pôle de l'orbite de Neptune dans cette image? Si on regarde le pôle de l'orbite de Neptune, il est quasiment sur le centre de précession. Bah, c'est normal, parce que l'inclinaison, elle est quand même toute petite. Donc, l'axe, il est quasiment à la verticale dans cette figure-là. Mais je vais quand même vous montrer la direction vers laquelle a basculé Neptune pour qu'on voit si c'est la direction du pôle de Saturne ou si c'est complètement ailleurs. Et voilà, donc c'est les lignes pointillées qui montent là. Donc on voit que Neptune a une inclinaison qui est à peu près dans la direction du pôle de Saturne. Donc c'est pas tout à fait, mais c'est assez proche. Donc l'orbite de Neptune précesse à la même vitesse que l'axe de rotation de Saturne et ils sont à peu près dans la même direction. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Pour comprendre, il faut faire un peu de dynamique. Alors, pour faire un peu de dynamique, on ne va pas faire des équations. On va faire une expérience que je vais vous faire devant vous. J'ai apporté mon matériel pour vous faire une expérience. Alors, cette expérience, donc, c'est un pendule. Et comme on parle de rotation, je vais faire tourner ce pendule. Donc il y a plusieurs choses qu'il va falloir comprendre dans ce pendule pour comprendre la dynamique de rotation des planètes. Donc, le pendule, il a une fréquence propre. Donc ça veut dire que si je le lance, et puis si j'essaie de ne pas bouger la main, il va osciller avec une certaine fréquence. Et ce qui est important de savoir, c'est que la fréquence dépend de l'angle. Vous comprendrez assez naturellement, on pourrait d'ailleurs faire l'expérience chez vous après, que plus l'angle est grand, plus la vitesse est rapide, d'accord? Il faut vraiment que je tourne vite pour avoir un angle élevé. Donc cette non-linéarité, cette dépendance de fréquence en fonction de l'angle, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi pour les planètes. Ça veut dire que la planète, selon qu'elle est verticale ou un peu basculée, sa fréquence de précession va être un peu différente, comme le pendule. Alors ensuite, donc si ça représente l'axe de rotation de la planète, que fait Neptune dans tout ça? Neptune, il fait une petite perturbation. L'orbite de Neptune, c'est un petit mouvement que je fais de la main. Alors, si le mouvement de Neptune était très lent, l'axe suivrait le mouvement de Neptune. Comment Neptune pourrait basculer Saturne? Ben, il pourrait basculer Saturne en augmentant la fréquence pour que l'inclinaison augmente. Donc si j'essaye d'avoir un tout petit mouvement toujours, mais je vais accélérer progressivement la vitesse de la perturbation, la fréquence de la perturbation, donc là du coup je vais basculer ma planète. D'accord? Donc pour le pendule, comme la fréquence augmente quand l'inclinaison augmente, il faut que la perturbation, sa fréquence, augmente avec le temps. Si je commence avec une fréquence élevée, qu'est-ce qui va se passer? Si je commence avec une fréquence élevée, il ne se passe rien. Parce que du coup, la planète, elle n'est pas du tout en résonance et elle voit un effet moyen et il ne se passe rien. Et donc si je pars d'une vitesse très grande et je ralentis, je ne vais pas faire basculer Saturne. Ce qu'il faut, c'est que je pars d'une fréquence faible et que j'accélère progressivement pour faire basculer la planète. Bon, il y a toujours le problème des analogies, c'est qu'il y a des choses qui ressemblent, des choses qui ne ressemblent pas. Pour la planète, la planète se comporte exactement à l'opposé de ce pendule, c'est-à-dire que lorsque l'inclinaison augmente, la fréquence du pendule augmente. Quand la planète bascule, sa fréquence de précession diminue. Ça veut dire qu'en fait, elle précesse très vite quand elle est droite, comme ça, et plus elle va basculer, plus elle va précesser lentement. Donc du coup, sachant un peu l'analogie, qu'est-ce qu'il faut pour basculer Saturne? Donc si on suppose que Saturne, au début, précessait très vite, il faudrait que Neptune fasse une excitation rapide et ralentisse son excitation pour que Saturne reste en résonance et bascule aussi. Alors, est-ce que de combien faut changer la fréquence? C'est l'idée. Donc c'est Neptune qui va basculer Saturne. Alors, de combien faut changer la fréquence? Donc la fréquence de précession d'une planète varie comme le cosinus de l'obliquité. Donc pour une obliquité de 26,7 degrés, vous pouvez voir que la différence ici, elle est de l'ordre de 10%. Ça veut dire que tout ce qu'il faut pour basculer Saturne de 26,7 degrés, c'est que l'excitation de Neptune est ralentie de 10%. Alors, est-ce que ça a eu lieu dans les passés du système solaire? Bon, déjà, 10%, ça correspond à quoi? De quoi dépend la fréquence de précession de l'orbite de Neptune? Donc, l'orbite de Neptune précesse parce qu'elle interagit avec les autres planètes. Donc, l'idée est la suivante. Vous avez le plan des autres planètes. Si vous basculez Neptune, les autres planètes vont dire non, essaye de revenir sur le plan. Donc, il y a cette force qui tend à ramener Neptune sur le plan. Mais comme tout ce qui tourne, quand on essaye de pencher dans un sens, ça tourne dans l'autre et donc ça fait précesser. Donc c'est l'interaction entre les planètes qui fait précesser l'orbite de Neptune. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rapproche Neptune des autres planètes? Eh bien, on va augmenter la tension, l'intensité de la force gravitationnelle entre les planètes. Donc maintenant, prenez un instrument de musique, une guitare, vous tendez la corde, qu'est-ce qui se passe? La fréquence augmente. Et maintenant, si vous détendez la corde, vous éloignez Neptune, la fréquence diminue. Et donc, c'est exactement ce dont on a besoin. On a dit qu'il fallait que l'excitation diminue pour que l'axe de rotation de Saturne bascule. Donc, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une migration de Neptune. Et il faut une différence de fréquence de l'ordre de 10%. Une différence de fréquence de 10%, donc Neptune actuellement est à 30 unités astronomiques. Il suffit qu'elle se déplace juste d'une unité astronomique. Et ça suffit à expliquer les variations de 10% de la vitesse de précession de l'orbite de Neptune et donc les 26,7 degrés d'inclinaison de Saturne. Alors, est-ce que Saturne a bougé dans le système solaire? Est-ce que Neptune, a migré dans le système solaire? Alors, c'est quelque chose qui est bien connu déjà depuis les années 84. Là, je vous donnais plusieurs références. Maintenant, le modèle de migration des planètes a été surtout développé depuis les années 2005 à Nice. Donc maintenant, on appelle ça le modèle de Nice en France. Même les étrangers appellent ça le modèle de Nice. Et on voit cette migration dans cette image-là. Vous avez différents instants, donc des photos du système solaire à différentes dates. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette image. Je vais d'abord parler d'Uranus et Neptune, et Jupiter et Saturne après. Donc, Uranus et Neptune, c'est les deux points bleus ici qui grossissent et qui s'éloignent et qui disparaissent de l'image à la fin. Alors, qu'est-ce qui leur arrive à ces deux planètes? Ces deux planètes, donc, dans le système solaire, donc au début, il y avait ce disque de gaz et de poussière. Les planètes ont commencé à se former. Et loin dans le système solaire, les vitesses... Donc, plus on est proche du Soleil, plus ça tourne vite. Plus on est loin, plus ça tourne lentement. Et donc, comme ça tourne lentement, les échelles de temps sont plus lentes, et donc ça met plus de temps à former des planètes. Donc ici, vous allez avoir des planétésimaux, et ici, vous avez les quatre protoplanètes qui vont former les planètes géantes du système solaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre les planétésimaux et les protoplanètes? Eh bien, il va y avoir des interactions, des instabilités, et donc si vous prenez le planétésimal est là et la protoplanète est là, et les planétésimaux, ils sont tout légers, et des fois, ils vont être envoyés en interaction avec la protoplanète vers l'intérieur du système solaire. Comme la majorité des planétésimaux se situent à l'extérieur, donc ils vont tendance à arriver vers l'intérieur. Mais à chaque fois, comme vous voyez sur la main, à chaque fois qu'il y a un planétésimal qui passe dans le système solaire interne, il y a un petit mouvement de recul de la protoplanète. C'est une histoire de conservation de moment cinétique. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et donc, vous voyez que pour Uranus et Neptune, donc Neptune, on commence à 7,5 unités astronomiques, et ça va aller jusqu'à 30 unités astronomiques. Donc, nous, on avait besoin que juste de 29 à 30, les modèles d'évolution du système solaire nous disent « Mais non, en fait, c'est même parti de beaucoup plus proche, donc environ 7,5 mois. » Après, on ne connaît pas précisément la distance initiale de Mercure et d'Uranus et Neptune, mais bon, l'ordre de grandeur est quand même là. Alors pour Jupiter et Saturne, nous on n'a pas besoin dans notre histoire, mais l'idée est la suivante, c'est que dans cette illustration, donc, il manque le gaz, donc il faut imaginer qu'il y a encore du gaz, et les planètes dans le gaz ont tendance à migrer vers, le Soleil est par là, donc à migrer vers le Soleil. Alors donc vous avez Jupiter qui va migrer, et Saturne qui va migrer un peu plus vite, qui va rattraper Jupiter, qui va enlever du gaz entre Jupiter et Saturne, qui va après avoir tendance à repartir dans l'autre sens. Alors ça, c'est une des solutions des équations qu'on a pour décrire ce genre de choses. Et pourquoi on pense que c'est ce qui s'est effectivement passé, ce qu'on appelle le virement de bord, où Jupiter s'approche du système solaire interne et repart? C'est parce qu'en fait, on observe que Mars est toute petite. Mars est une petite planète par rapport à la Terre, alors que si Jupiter avait toujours été à sa place, il aurait dû avoir suffisamment de matériel pour pouvoir faire une grosse Mars. Donc le fait qu'il y ait une petite Mars, c'est que Jupiter est passé par là, il a balayé un peu tout ce qu'il y avait, et il est reparti. Donc du coup, il restait moins de matériaux, et du coup, Mars est petite. Donc ça, c'est le virement de bord, mais donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la migration de Neptune. Alors donc, avec tous ces modèles-là, donc dès 2004, Hamilton et Ward, et Ward et Hamilton, ils ont fait deux papiers qui expliquent exactement ce que je vous ai fait avec le pendule. Donc, vous avez, donc en bas, vous allez avoir la période de précession de Neptune, donc l'inverse de la fréquence. Donc normalement, il faut que la fréquence diminue, donc là, que la période augmente, que ça devienne de plus en plus lent. Donc vous avez la période qui augmente. Quand c'est égal à 1, vous avez la résonance. Et ici, vous avez l'inclinaison de l'axe de Saturne. Donc avant la résonance, Saturne a une faible inclinaison. Et après, paf, on rentre dans la résonance et ça monte. Et donc la valeur de l'inclinaison, c'est la valeur qui permet d'avoir l'égalité à la fin des fréquences, parce que du coup, quand on a basculé, on précesse moins vite. Alors après, dans cette image, il faut imaginer qu'on regarde encore les mouvements des axes de rotation et du pôle de l'orbite de Neptune dans le ciel, mais en plus, on tourne la tête à la vitesse de précession de Neptune. Donc Neptune va toujours être au même endroit. Donc là, vous avez le centre de précession, et Neptune va toujours être sur l'axe des X, là. Parce qu'on a la caméra qui tourne avec la vitesse de précession de Neptune. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure où la vitesse d'excitation change, vous allez avoir Saturne au début qui reste à une faible obliquité, et après son obliquité va augmenter et va arriver ici. Alors ce qu'on a vu aussi, c'est que Saturne, il n'est pas exactement aligné avec Neptune, il est un petit peu en décalage. Donc si l'évolution est trop lente, l'amplitude de libration, ce qu'on appelle une amplitude de libration, ici va être trop petite. Mais si on prend une migration un peu plus rapide, donc si vous regardez l'échelle de temps ici, là c'était 500 millions d'années, si la vitesse c'est 200 millions d'années, alors c'est suffisamment rapide pour avoir une grande amplitude de libration et englober la position actuelle de Saturne. Donc en fonction de la vitesse de migration, on peut expliquer ou pas la position actuelle de Saturne. Donc là je ne vais pas vous parler aussi, j'ai travaillé aussi sur ce modèle exactement, pour essayer de contraindre cette vitesse de migration de Neptune en fonction de son inclinaison, etc. Donc il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits, et donc qui peuvent se résumer ainsi. Donc à t égale 0, vous avez la formation du système solaire. Dans le système solaire, il y a ce disque de protoplanétaire de gaz et de poussière qui va former les petits planétésimaux qu'on voit en arrière-plan là, dans le disque. Durant les 10 premiers millions d'années, donc il y a ce disque de gaz. Et c'est pendant ce temps que Jupiter va faire son virement de bord avec Saturne. Ensuite, vers 10 millions d'années, la proto-étoile, le proto-soleil va devenir suffisamment chaud et avec suffisamment de pression pour démarrer des réactions nucléaires. Et donc lorsque les réactions nucléaires démarrent, ça fait un vent très fort qui va souffler le gaz qui était dans le disque protoplanétaire. Et à la fin, on se retrouve avec plus que des planétésimaux. Mais c'est justement ces planétésimaux qui vont faire migrer Neptune, donc pendant quelques centaines de millions d'années. Donc c'est quelques centaines de millions d'années depuis l'instant zéro. Ça veut dire qu'on est encore à moins 4 milliards d'années par rapport à aujourd'hui. Et donc, au bout de quelques centaines de millions d'années, la migration s'arrête. Donc l'excitation de Neptune a toujours la même fréquence. L'axe de rotation de Saturne est fixe. Il ne se passe plus rien pendant 4 milliards d'années. Donc si vous avez compris, c'est bien, mais ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Ce n'est pas du tout la fin de l'histoire, ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. On est un peu dans le cas de Schiaparelli. Vous savez, il dit voilà, les effets de marée, donc la rotation de Vénus doit être synchrone. Donc nous aussi, on a un modèle qui marche bien, qui explique tout de moins. Tous les ingrédients du modèle font consensus dans la communauté, tout a l'air d'être de coller, et il nous manque quelque chose, il nous manque une observation qui va être déterminante. Et pour comprendre ça, Il faut quand même que je vous explique pourquoi est-ce que les planètes précessent. Alors la planète, donc là vous avez la Terre et le Soleil, et pourquoi la planète précesse? Donc si la planète était parfaitement sphérique, elle ne précesserait pas. Mais c'est comme la planète tourne sur elle-même, elle est aplatie au pôle, ça fait des bourrelets à l'équateur. Le Soleil va tirer différemment sur le bourrelet le plus proche du Soleil et moins sur le bourrelet le plus lointain. Et donc ça fait un couple qui aurait tendance à redresser la Terre, mais comme la Terre tourne sur elle-même, quand on essaie de la redresser, ça la fait précesser. Voilà. Alors la Terre, elle n'est pas toute seule, il y a aussi la Lune. La Lune est quasiment dans le plan de l'écliptique, à 5 degrés près, et la Lune a le même effet. Elle va aussi tirer sur le bourrelet, et il s'avère que l'effet de la Lune est même deux fois plus grand que l'effet du Soleil. Parce que cet effet-là, il varie comme la masse sur la distance au cube, et si vous faites le calcul pour la Lune, vous verrez un facteur deux fois plus grand que pour le Soleil. Okay. Et donc ça, c'est bien pris en compte pour expliquer les 26 000 ans de précession. Alors pour Saturne, qu'est-ce qu'on a? Pour Saturne, on a beaucoup de satellites, et les satellites n'ont pas la même particularité orbitale que la Lune. Les satellites se situent plutôt dans le plan équatorial de Saturne. Donc là, vous avez jusqu'à Titan, le plus gros satellite de Saturne. Après, vous avez Jappé, qui est un peu indécis. Il ne sait pas trop s'il doit se mettre dans l'équateur ou dans l'écliptique. Il est un peu entre les deux. Et plus loin, vous avez tout plein de petits satellites que je n'ai pas dessinés, qui ont des inclinaisons qui varient beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Saturne? Bah, la même chose. Le Soleil, il tire sur le bourrelet avec des forces différentes. Mais pour les satellites, les satellites, ils sont dans le plan équatorial. Donc s'ils tirent sur Saturne, ils ne vont pas le faire basculer, donc ils ne vont pas créer de précession. Mais en fait, si, ils créent de la précession, parce que ces satellites, ils sont vraiment liés à l'équateur de la planète. Ça veut dire que si on essaye de basculer le satellite, ben, en fait, on va basculer la planète avec. Et du coup, le Soleil, il va tirer sur le satellite, et c'est ça qui va vouloir faire basculer la planète, et donc la faire précesser. Et là, l'effet, il est trois fois plus grand que Saturne seul. Ça veut dire que quand on cumule, ça fait un facteur 4 en tout. Donc ça, c'est bien pris en compte aussi. Hein. On connaît bien la théorie. Et donc ça, c'est pris en compte dans les 1,6 ou 1,9 millions d'années de vitesse de précession de Saturne. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les variations sont différentes. Donc là, on voit que si on éloigne la Lune, ça va décroître l'effet de la Lune. Donc là, quand la Lune est loin, l'effet, il décroît avec la distance. Mais là, quand la Lune est proche dans le plan de l'équateur, quand on éloigne le satellite, ça fait un bras de levier plus grand, et donc ça augmente l'effet. Donc l'effet, il varie différemment pour les satellites proches et les satellites loin. Donc, c'est quelque chose que je connais bien, parce que c'était le sujet de mon stage de master avec Jacques Lascar. Et donc, vous avez la fréquence de précession en fonction de la distance de la Lune, là, pour le système Terre-Lune. Et donc, vous voyez que pour une Lune qui est, si elle était proche de la Terre, la vitesse de précession augmenterait lorsque la Lune s'éloigne, jusqu'à atteindre un maximum, et après on passe dans l'autre phase, où là c'est la Lune qui tire sur le bourrelet, et donc une décroissance comme ceci. Alors, dans le cas de Saturne, donc c'est Titan qui est le plus gros satellite, donc on va regarder où se situe Titan. Titan se situe à une vingtaine de rayons de Saturne, donc elle se situe ici sur le graphe. Et du coup, donc, Titan, c'était trois fois plus gros que Saturne tout seul, et quand on cumule Saturne plus Titan, ça fait un facteur 4 en tout d'amplification de la vitesse de précession de Saturne. OK? Et pourquoi je vous raconte tout ça? Bien, parce que Titan, donc satellite de Saturne, on pensait que tout est calme dans le système solaire, Titan, il reste toujours à sa place, à sa distance. Donc ce qu'on pensait, c'était que là vous avez les observations en question, on pensait que donc, vous avez en fonction du temps la distance des satellites. Et donc vous avez Titan ici, donc aujourd'hui, et quand on remonte le temps, ce qu'on pensait, c'était qu'il y avait le modèle constant de Q, là. On pensait que Titan était toujours à la même distance de Saturne, à peu près à 20 rayons de Saturne. Mais ça, c'est la théorie. Et donc Valérie Lenet de l'institut où je travaille, justement un collègue spécialisé dans les mesures astrométriques des positions des satellites des petits corps du système solaire, a trouvé que non, pas du tout. Titan n'est absolument pas à une orbite constante autour de Saturne. Elle est en train de s'éloigner. Et elle s'éloigne assez vite, hein. En tout cas beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. On pensait que c'était quasiment constant, et là on voit que Titan s'éloigne énormément. Et donc nous, le scénario que je vous ai montré juste avant, On disait que le basculement de Saturne avait eu lieu dans les premières centaines de millions d'années, à une époque où Saturne était beaucoup plus proche, où Titan était beaucoup plus proche de Saturne qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et si vous vous rappelez de la courbe, si Saturne était plus proche, la vitesse de précession de Saturne était beaucoup plus faible. Et donc en fait, il n'y a pas pu avoir de résonance au moment de la migration des planètes. Alors c'est quoi le mécanisme ? Alors là, je vais vous présenter une figure qui est un petit peu compliquée, mais on va la détailler progressivement. Donc, vous avez, donc c'est une figure qui a été adaptée, donc c'est un travail que j'ai fait avec un collègue. Donc, en fait, je savais que Melaine Selin-Fest travaillait sur la variation de l'obliquité de Jupiter en fonction de la migration des satellites. Je me suis dit, mais Melaine, il faut qu'on regarde Saturne. Saturne, tout ce que j'ai dit avant, ce sur quoi j'ai travaillé en supposant que c'était la migration des planètes qui avaient basculé Saturne, peut-être que ça ne marche pas. Et bah, Melaine était très efficace et il a fait le travail quasiment en instantané. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette figure ? Donc, en bleu, vous avez la fréquence de précession, la main, à quelle vitesse tourne la main. Donc, ça, c'est la fréquence de Neptune. Et en vert, vous avez la fréquence propre, hein, la fréquence à laquelle précesse Saturne. Alors, donc là, il y a deux modèles. Il y a le modèle où Titan ne migre pas et le modèle où Titan migre. Alors, pour prendre la figure, commençons par le début, au début du système solaire. Donc si Titan, l'épaisseur aussi, j'ai oublié de dire, l'épaisseur c'est dû à l'incertitude qu'on a sur la vitesse de précession de Saturne. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas les mesures observationnelles, donc c'est les calculs, et les calculs ont une certaine marge d'erreur. Alors donc si Titan était toujours resté au même endroit, la fréquence de Saturne au moment de la migration des planètes aurait dû être élevée comme ceci, et la fréquence de précession de Neptune aurait dû arriver de très haut, et descendre au fur et à mesure que Mercure migrait, et que Neptune migrait. Et donc capture en résonance et basculement de Saturne. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et maintenant, l'idée, c'est que ce n'est pas du tout ça. C'est que, en fait, Titan était beaucoup plus proche de Saturne, et la fréquence propre de précession de Saturne, en fait, était beaucoup plus faible. Et il n'y a pas du tout de résonance. Il n'y a pas égalité des fréquences. Donc maintenant, si on laisse évoluer le temps, donc là, on est passé de moins 4 milliards d'années à moins 2 milliards d'années. Dans le premier scénario, il ne s'est rien passé parce que la distance entre les deux fréquences de résonance, ça nous donne quelle est l'inclinaison de l'axe de Saturne. Là, la distance, elle reste constante, donc l'axe de rotation de Saturne garde 26,7 degrés. Dans le cas où Titan a migré, toujours pas eu de résonance il y a 2 milliards d'années. Ensuite, on arrive aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans les deux cas, la fréquence de précession, elle est la valeur qu'on a aujourd'hui. Et donc là, on voit que la résonance a eu lieu il y a entre 1 et 2 milliards d'années dans le passé. Et donc c'est à ce moment-là où, alors que Titan était en train de s'éloigner de Saturne, il y a eu l'égalité des fréquences de précession et Saturne a commencé à basculer. Et alors maintenant, si on continue dans le futur, donc 1 ou 2 milliards d'années, dans le premier modèle, Saturne toujours 26,7 degrés. Dans le nouveau modèle, Saturne continue à basculer et bascule de plus en plus au fur et à mesure que Titan s'éloigne. Alors, bien sûr, donc, ça nécessite de savoir où était Titan il y a très longtemps dans le passé. Mais en fait, je vous rappelle, il n'y a que 10% qui nous intéresse, 10% de variation de fréquence de précession. Et donc ça veut dire migrer de juste 2 ou 3 rayons de Saturne. Donc en fait, ici, donc là, ça, sur cette, si on extrapole les observations de Valérie Lenet, ça tombe autour de moins 1, moins 2 milliards d'années. Si en extrapolant un peu différemment, on peut quand même s'attendre à ce que Titan ait émigré de plus de 2 ou 3 rayons de Saturne. Donc dans tous les cas, même si le modèle qu'on a de migration de Titan n'est pas parfait, en tout cas, les observations extrapolées ne sont pas très bonnes, on peut quand même s'attendre à ce que Titan ait migré de 2 ou 3 rayons de Saturne. Donc ça, c'était le résumé que je vous ai donné au tout début. Avant, vous avez la formation du système solaire, le grand virement de bord de Jupiter-Saturne, ensuite la migration de Neptune et le basculement de Saturne à ce moment-là, et après, plus rien pendant 4 milliards d'années. Maintenant, La vision qu'on a, c'est pas du tout ça. Donc c'est, y a bien eu le virement de bord, la migration de Neptune, mais ça a pas du tout. Saturne s'en est complètement moqué de cette évolution-là. C'est la migration de Titan qui s'est faite depuis ces 4 milliards d'années qui a basculé Saturne. Voilà.
Merci beaucoup Gwenaël, j'ai appris plein de choses et j'imagine que vous aussi. Donc il y a quelques questions sur le chat que j'ai notées et puis ceux qui sont là sur YouTube, il y a quand même 111 personnes, tu vois, donc c'est beaucoup plus plein que notre amphi, peuvent continuer à poser des questions. Et puis ceux qui sont dans la salle peuvent bien sûr poser des questions, vous attendez juste que j'arrive auprès de vous avec le micro, de manière à ce que les personnes qui sont sur YouTube vous entendent aussi. Donc je vais remettre mon masque pour l'instant pour pouvoir circuler un peu dans la salle, c'est la règle. Mais... Qui a des questions ? Osez, oui.
Bonjour, j'aimerais savoir si la précession de l'équinoxe de la Terre serait amenée à changer, que ce soit par rapport à la masse du Soleil ou la distance de la Lune, au cours des milliers ou millions prochaines années du coup.
Alors oui, effectivement, tout comme Titan s'éloigne de Saturne, on sait très bien aussi que la Lune s'éloigne de la Terre. Et en s'éloignant de la Terre, donc comme la Lune c'est un satellite loin, donc du coup elle est en train de tirer sur le bourrelet de la Terre, donc plus elle s'éloigne, moins elle va tirer sur le bourrelet, et donc plus la fréquence de précession va diminuer et plus la période de précession va augmenter. Ça veut dire que ça va être de plus en plus lent, donc en ce moment c'est 26 000 ans, mais la fréquence, la période va être de plus en plus longue. Et il s'avère que comme la fréquence, la période augmente, au bout d'un moment, la fréquence de précession de la Terre va être égale à des fréquences de précession orbitale qu'il y a dans le système solaire. Et il s'avère que là, l'évolution, ça ne va pas être juste un basculement de l'axe de rotation de la Terre. Là, la Terre peut entrer dans une zone chaotique et faire comme Mars, avec des obliquités qui varient. Donc, quand on voit que quelques degrés d'obliquité peuvent changer assez drastiquement le climat sur Terre, ça oscille entre 0 et 60 degrés, là, c'est... Mais bon, c'est sur des échelles très longues, hein, donc...
Voilà. Alors, ça se rapproche de questions qu'il y avait là dans le chat, c'est-à-dire, est-ce que Titan donc, s'éloigne de Saturne pour la même raison que la Lune s'éloigne de la Terre ?
Alors oui, dans les deux cas, c'est des effets de marée, mais alors pour Titan, il y a une subtilité supplémentaire. Mais, donc l'idée, c'est la Lune va créer un bourrelet sur la Terre, donc c'est les marées à la plage qu'on observe, et donc aussi des marées solides. Mais comme la Terre tourne plus vite sur elle-même que la Lune ne tourne autour de la Terre, le bourrelet va avoir tendance à prendre un peu d'avance. Et donc la Lune va voir un bourrelet légèrement en avance par rapport à elle, et donc ça va accélérer la Lune. Donc c'est ça qui fait éloigner la Lune progressivement, et donc la fait spiraler vers l'extérieur. Et dans le cas de Saturne, donc Saturne c'est une planète gazeuse, donc avec des y a des fréquences propres d'oscillation de ce gaz. Et l'idée c'est que quand les satellites sont en résonance avec une des résonances d'oscillation dans Saturne, donc ils vont être bloqués sur cette résonance, donc ils vont être calés sur la rotation de Saturne. Mais ce qu'il y a, c'est que Saturne, donc à sa rotation, sa vitesse de rotation qui diminue parce qu'elle refroidit, etc. Donc du coup, les fréquences changent. Et parce que ces fréquences d'oscillation dans Saturne changent, comme les satellites sont calés sur les fréquences, si les fréquences changent, bah, du coup, les satellites ils s'éloignent pour rester calés sur les fréquences. Et ce qui fait que tous les satellites s'éloignent plus ou moins à la même vitesse, alors qu'on s'attendrait à plus on est loin, moins on a d'effet. Ça ne marche pas pour les satellites de Saturne. Ils migrent tous assez vite.
D'accord. Et donc, la question qui suit, c'était, et dans ce cas, est-ce que la vitesse de rotation de Saturne diminue comme celle de la Terre ?
Donc, oui, donc, la vitesse de...
rotation de Saturne.
Donc, non, pour Saturne, on est dans ce cas-là. Donc, on a Titan ici, et donc Titan s'éloigne, donc son orbite augmente, et donc en s'éloignant, son effet est de plus en plus grand, parce que donc Titan, il fait le jeu de bras de levier, et donc plus le bras de levier est grand, et plus l'effet est important, et donc plus ça va précesser vite pour Saturne.
D'accord.
Mais ce qu'il y a, c'est que comme du coup Saturne va basculer pour rester en résonance avec Neptune, donc du coup, au final, la précession de Saturne va être constante. C'est juste la fréquence propre qui augmente, mais pour que la fréquence réelle soit constante, il faut que Saturne bascule.
Alors, il y a d'autres questions qui arrivent là, mais après, je vais vous regarder pour voir s'il y a d'autres questions dans la salle. Est-ce que cela signifie que Saturne a fait son virement de bord en conservant une inclinaison proche de zéro ?
Oui, oui, parce qu'à cette époque-là, la fréquence de précession de Saturne était tellement lente que Saturne a vu qu'une moyenne, donc toutes les orbites étaient plus serrées. Donc les orbites étaient plus serrées, donc on a augmenté la tension dans les cornes, les fréquences étaient très rapides, les fréquences de précession des planètes. Saturne précessait très lentement parce que le satellite était très proche. Donc du coup, Saturne n'a pas du tout vu ce mouvement très rapide, donc Saturne a fait son virement de bord sans basculer.
Tranquillement.
Il y a rien qui a forcé le basculement de Saturne à cette époque.
Alors si maintenant on revient à la Lune et à la Terre, est-ce qu'on peut dire que c'est l'éloignement de la Lune qui fait basculer la Terre ?
Pour expliquer les 24 degrés, ça... Non, bah, ce qu'il y a, c'est que Saturne est en résonance avec Neptune. Pour la Terre, on n'a pas de résonance. Pour l'instant, les 26 000 ans correspondent à aucune fréquence d'excitation dans le système solaire. Donc le fait que la Lune s'éloigne, ça n'a pas de raison de basculer la Terre, parce que la Terre n'a pas de fréquence à caler. Donc du coup, non, ça ne bascule pas la Terre.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, j'arrive.
On constate que c'est la migration de Titan qui a aidé au basculement de Saturne, mais dans le cas de Jupiter, a priori, les effets de marée font migrer les satellites galiléens. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas supposer qu'à force que les satellites galiléens migrent, donc ça fait changer la fréquence de précession propre de Jupiter, et est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'ils vont rentrer en résonance avec une précession d'un nœud d'une planète du système solaire ? Fertilité Jupiter.
Eh bien, justement. Donc ça, c'est connu aussi depuis un certain temps, que la fréquence de précession de Jupiter est égale à la fréquence de précession de l'orbite d'Uranus en ce moment. Donc, pour l'instant, il n'y a que 3 degrés. C'est pas beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait, les satellites viennent juste de migrer à la position où on rentre dans la résonance.
En fait, il se pourrait que les 3 degrés, ce n'est pas juste un hasard de ça s'est formé comme ça, mais c'est déjà en train de basculer.
C'est déjà en train de commencer, ouais. Et du coup, effectivement, Jupiter va basculer dans... c'est encore des millions d'années, mais en effet, Jupiter est en train de commencer à basculer dû à la résonance avec la fréquence de précession d'Uranus.
D'accord, merci, Wynne.
D'autres questions dans la salle ? Oui ?
Est-ce que vous avez estimé de combien Saturne pourrait continuer à basculer ?
Ça dépend jusqu'à combien de temps regarde, ouais. Mais ça peut être assez significatif. Je ne me rappelle plus des résultats de Meulen, mais une soixantaine de degrés, pourquoi pas. Ouais, moi, ça peut vraiment basculer. Par exemple, pour Uranus, parce que du coup, moi, pendant ma thèse, j'avais essayé d'étudier Uranus et de le basculer, en fait, par ce même mécanisme, un mécanisme de résonance. Donc c'était plus compliqué, parce qu'il fallait rajouter pas mal d'ingrédients pour pouvoir réussir à avoir cette résonance, parce qu'Uranus précesse très très lentement, comparé aux fréquences de précession des orbites. Mais donc j'avais plus ou moins trouvé un moyen qui effectivement permettait à Uranus de rentrer en résonance avec les mouvements orbitaux. Et donc ce qu'on arrive à faire, c'est basculer donc Uranus jusqu'à 90 ou presque 90, mais dépasser les 90. Donc actuellement Uranus est incliné de 97 degrés. Les derniers 7 degrés, là, c'est très difficile à faire. Donc généralement, on arrive à basculer de 90 degrés, mais on s'arrête à 90 degrés, on n'arrive pas à aller plus loin. Ouais.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour avoir les 7 degrés de plus? Tu nous laisses sur notre faim, là.
Donc, dans les simulations que j'avais, je ne suis pas sûr que j'arrivais à atteindre ces 97, effectivement. Ouais, c'est ce dernier-là, il faut avoir de l'inclinaison orbitale pour que l'inclinaison de 90 soit par rapport à une orbite qui soit inclinée pour pouvoir après réussir à récupérer quelques degrés, mais c'est assez difficile, effectivement. Oui. Donc c'est pour ça que, au final, le scénario de collision pour Uranus, bon, il marche aussi. Hein. D'autant plus que pour Uranus, il y a une particularité, c'est que quand on regarde le champ magnétique, là où je vous ai parlé du champ magnétique qui permettait de mesurer les vitesses de rotation des planètes. Les champs magnétiques sont inclinés par rapport aux axes de rotation des planètes de quelques degrés, 2, 3 degrés. Pour Uranus, c'est 56 degrés. Donc le champ magnétique est très incliné par rapport à la rotation de la planète. Donc déjà, ça pose des questions aussi. Comment ça se fait que ce champ magnétique soit aussi incliné? Donc peut-être que l'origine, c'est dû à des collisions qui auraient fait aussi basculer la planète.
Alors après, il y avait une remarque qui était que, en remontant dans l'exposé, dans 12 000 ans, l'étoile polaire serait Vega. Tu confirmes ou tu n'en sais rien?
Je ne sais pas. Est-ce que c'est en lien avec l'image que j'ai donnée là? Vega est ici, donc il faudrait que Vega bouge énormément pour arriver à...
Elle est où, là?
C'est
oui,
là,
elle est loin, quand même. Hein.
Comment?
Oui, il me semble qu'elle n'est pas du tout...
Comment? Ah oui, oui, dans 12 000 ans, ah oui. Ah oui, et puis
ah
du
oui,
coup...
12 000 ans, là-bas, oui.
Ah oui, oui, oui. Et effectivement, donc 12 000 ans est là, et comme Vega a un mouvement propre, peut-être que...
Oui, si elle n'en avait pas, ce serait à 13 000, quoi. À peu près.
Oui, c'est ça, ouais, ou presque 14, ouais.
Oui. Oui, mais le mouvement propre de Vega, moi, je ne le connais pas par cœur.
Je ne le connais pas non plus.
Personne ne le connaît par cœur, mais voilà. Alors, à propos de Vénus, il y avait deux questions. Donc, d'abord, la rotation de Vénus. Quand tu as donné tous les chiffres là, des différents calculs de la vitesse de rotation de Vénus, est-ce que c'est une question à moi ça, mais parce que voilà, on est un peu conditionné, il donnait pas du tout de barre d'erreur. Enfin, quand on voit ce 21,9345 secondes, il avait une idée de l'erreur sur ces valeurs là.
Je suppose que l'erreur du coup devait être sur le dernier chiffre, mais.
Non, mais aucun ne donne d'estimation de l'erreur qu'ils peuvent faire.
J'avoue que j'ai que relu un peu ce qu'avait écrit Jacques Cassini. Et il dit de l'ordre de 23h20. Il cherche pas à être précis, quoi.
Oui, c'est plus raisonnable, d'ailleurs.
Mais oui, effectivement.
Et alors, est-ce que la coïncidence, finalement, entre la vitesse de rotation de Vénus... Et le résultat de Schiaparelli au signe près, enfin au sens près, c'est une coïncidence
que l'ordre de grandeur soit le même. Oui, c'est vraiment dû à ces marées atmosphériques qui donnent ce point fixe là, cet équilibre. Donc si on change l'atmosphère, donc on va avoir ça va se décaler. Et donc effectivement là, c'est de l'ordre de la... C'est du même ordre de grandeur, mais je pourrais pas dire que...
C'est plutôt une coïncidence qu'autre chose, d'accord. Peut-être pas de prendre encore trop de questions. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux dans la salle? Non? Vous êtes sûr? Je vais poser la dernière, alors peut-être. Tu as dit que Titan s'éloignait à grande vitesse. Mais à quelle vitesse? Moi, j'ai aucune idée, parce que moi, je travaille dans les galaxies.
J'ai pas...
T'as une idée vaguement?
C'est à peu près
un
comme...
Un ordre de grandeur, parce que moi, je sais pas du tout.
Quelques centimètres par an.
Quelques centimètres par an.
Ouais, je crois. Si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas. Ouais.
Tu peux me dire n'importe quoi.
Normalement, c'est à peu près comme la Lune, il me semble, ouais, un facteur de près, ouais, donc quelques centimètres par an.
Très bien. Bon, ben, il y a beaucoup de merci, très intéressant. Il y a encore une question. Comment peut-on déterminer qu'un globe soit incliné?
Donc ça, c'est la. Hop. Donc là, on voit que, donc si on regarde l'image de Saturne, on voit qu'elle est inclinée. Donc après, il faut tenir compte effectivement du repère dans lequel on se place, mais une fois qu'on a bien le repère et les coordonnées, quand on voit des anneaux qui sont inclinés comme ça, on se dit que l'axe est incliné.
D'accord. Oui, bon. Très bien. Bon, mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, on remercie beaucoup Gwenaëlle et rendez-vous. Bon. S'il y a encore une question?
Oui.
Ah, mais il faut lever la main plus haut. Il suffirait que je regarde mieux.
Est-ce que ce serait possible qu'à force de s'éloigner, Titan ou la Lune, justement pour la Terre, sortiraient de l'orbite de leur planète respective?
Alors oui, donc il faut tenir compte de ça. Titan est suffisamment, Saturne, le système de Saturne est suffisamment loin du Soleil pour avoir encore de la marge. Pour la Lune, effectivement, si on continue à l'éloigner, au bout d'un moment, elle va ressentir beaucoup plus l'effet du Soleil que la Terre, et du coup, on va perdre la Lune, effectivement.
Et c'est très grave.
Non, mais c'est dans le temps. Après, je ne sais plus quelle est l'échelle de temps comparée aux 5 milliards d'années avant que le Soleil devienne une géante rouge, par exemple. Donc, je ne sais pas, je sais plus quel est l'ordre, qui arrive avant qui.
Merci beaucoup.
Pas pour tout de suite.
Non.
Eh bien, merci beaucoup et rendez-vous au mois de décembre avec Thierry Fouché. Alors, bonne soirée à tous.